Donc pour ceux qui ne sont pas habitués, le mois de la famille, c'est la découverte ou la redécouverte d'un personnage de la Bible avec, en tenant compte de sa vie et de son époque, de sa famille aussi, pour tirer quelques pistes de réflexion, mais surtout des enseignements, parce que la Bible est un livre extrêmement actuel, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. La Bible est extrêmement moderne. Vous allez voir que la Bible avait des familles recomposées bien avant le XXe siècle, et des familles polygames aussi. Peut-être moins discrètement que chez nous, mais voilà. Malgré la différence de culture et de circonstances, nous croyons que, comme le dit la Bible, toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Hein, c'est un verset que je cite à chaque fois au moment du mois de la famille, parce que il faut prendre conscience que tous ces récits, particulièrement ceux de l'Ancien Testament, ils sont quand même très loin de nous, entre 2000 et 4000 ans, ont été écrits pour nous servir d'exemple. C'est ce que dit l'apôtre Paul, je crois, à Timothée. Petit rappel chronologique. D'abord, la Bible n'est pas un livre magique ou un conte de fées, vous savez, du genre « Il était une fois dans un pays lointain, un roi, etc. » Non, les choses sont précises, les lieux sont précis, on peut les retrouver. Vous allez voir que dans notre histoire, le sanctuaire de Silo, on a les photos des bases, on a retrouvé les bases en pierre. On a retrouvé la plateforme sur laquelle était dressé le tabernacle, parce que bon, évidemment, ils avaient arasé, hein. Donc ça se voit encore aujourd'hui. Donc des lieux précis dans l'histoire des hommes et aussi dans l'histoire locale. Alors évidemment, à partir d'Abraham, on peut bien situer. Avant Abraham, c'est plus difficile. Mais à partir d'Abraham, on a des dates. Les premières dates ne sont pas très précises, mais à partir de notre histoire, les dates sont précises. On sait quand a vécu Samuel, on sait quand il a oint le roi Saül et quand il a oint le roi David. Là, les dates sont des dates de l'histoire du monde, des dates officielles, tout à fait précises. Alors, un petit retour pour ceux qui possèdent pas tout à fait la chronologie de la Bible. C'est la première chose que je fais avec mes élèves à l'école. C'est bien cadrer les premiers livres de la Bible. Rappelez-vous, la Genèse qui va expliquer l'histoire d'Adam et Ève. Ensuite, on avance à Noé. Après, on avance, on arrive à Abraham, à peu près, moins 1900, moins 2000, Abraham, qui va donner naissance à Isaac, puis Jacob. Jacob, le fils le plus célèbre de Jacob étant Joseph, qui va emmener le peuple en Égypte. Et 400 ans plus tard, c'est Moïse qui va faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Donc on est arrivé à moins 1300. Et une fois sortis d'Égypte, ils vont tourner dans le désert, ils vont vivre tout un tas de choses. Et c'est Josué qui va prendre la succession de Moïse pour rentrer dans le pays de Canaan, qui est l'actuel pays d'Israël. Donc vous voyez, on n'est pas dans du rêve ou de la légende. C'est l'actuel pays d'Israël. On peut retrouver les lieux. Jéricho, par contre, on n'a pas retrouvé les bases de Jéricho, mais on sait où est la ville de Jéricho. On n'a pas retrouvé celle de l'époque de Josué. Mais vous savez, les villes étaient construites par strates. Plus on creuse, plus on recule dans le temps. Les archéologues nous expliquent ça. Donc, on sait où est Jéricho. Évidemment, la conquête de Jéricho, 1240, moins 1240. Vous voyez, on est assez précis là. Et pendant presque 200 ans, le peuple va habiter le pays de Canaan, l'actuel Israël. Et on va voir les juges. Alors, vous souvenez, on a fait Déborah déjà, Barak, Gédéon, Samson. Et le dernier juge, il se trouve que ça va être Samuel. Et comme disait André, ça va être un personnage de transition, parce que Dieu ne souhaitait pas avoir des rois pour son peuple. Il préférait que les gens s'attachent à Dieu, honorent Dieu, et qu'il n'ait pas un homme tyrannique qui gouverne et qui tienne tous les pouvoirs dans ses mains. Malheureusement, les humains étant ce qu'ils sont, ils ont réclamé un roi. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient envie d'être tyrannisés ? Non ! Mais ils avaient envie de faire comme tout le monde. Être le seul peuple qui avait un dieu qu'on voyait pas, ça c'est pas facile. Le seul peuple qui n'avait pas de roi, alors que même les petites villes avaient un roi, et ce peuple quand même assez important, n'avait pas de roi. Et quand les voisins, les marchands leur disaient, Et votre roi, c'est qui ? Ben, c'est-à-dire que nous, on a des juges, c'est des chefs militaires, ce sont souvent des prophètes qui parlent de la part de Dieu. Ça faisait bizarre quand même. Donc ils avaient envie d'être comme tout le monde, d'avoir un roi, un palais, une cour, une armée. Et ça, on verra ça à la fin du livre de Samuel. Samuel va être le dernier juge qui va faire la transition avec les rois. Donc on se situe avec l'histoire de Samuel environ autour de 1100. Voilà, j'ai mon verre d'eau qui est là. Il est prêt. J'ai oublié de l'emmener. Voilà. Donc, les deux livres de Samuel, merci. Les deux livres de Samuel portent le nom de Samuel, mais en fait, au départ, c'était qu'un seul livre. Dans la classification hébraïque, ils appartiennent en fait aux premiers prophètes. Je ne sais pas trop pourquoi on les a appelés Samuel, parce que on ne parle de Samuel que dans les chapitres 2, 9, 7, 8, 9, 11, non 2, 3, 7, 8, 9, 11, 25 et 28. Le reste du temps, c'est des événements qui se passent après Samuel. Alors, ce qui surprend parfois le lecteur, c'est que l'auteur rapporte des faits historiques avec un souci de précision. Mais son intention première va pas être l'histoire. Hein. Parfois, les gens regardent la Bible comme un livre d'histoire. Ils sont déçus parce que, ah, mais pourquoi ils disent pas ça? Pourquoi ils parlent pas de cet événement? La Bible est précise quand elle le, qu'il le faut. Mais le point le plus important, c'est de souligner la qualité de la relation entre Dieu et les hommes. Donc l'histoire, oui, elle entre en ligne de compte, mais c'est la relation entre Dieu et les hommes qui est le point le plus important des livres de la Bible. C'est pour ça qu'il y a des faits historiques qui vont pas être mentionnés, parce que c'est pas le but, ce n'est pas un livre d'histoire. Et pour moi, ce qui est vraiment un signe d'authenticité, c'est important de le dire quand on commence l'étude d'un personnage, c'est que ces grands hommes que la Bible décrit, ces principaux acteurs, ne sont pas décrits de façon flatteuse. Hein? Souvent, quand on fait l'histoire de son pays, regardez maintenant, enfin moi je me souviens quand j'étais petite, hein, il y a beaucoup de gens qui critiquaient De Gaulle. Mais maintenant, il a toutes les qualités. Il faut dire qu'il est mort. Ça aide. Mais on aime bien, quand on fait l'histoire, donner toutes les qualités à nos héros. Et la Bible ne se laisse pas séduire par ce genre de choses. Vous allez voir Samuel, il a ses défauts. Le roi David, il a ses défauts. Et ça, je trouve, c'est un signe d'authenticité. N'importe qui, quand il écrivait l'histoire de son peuple, d'ailleurs, si on prend les livres d'histoire, les tablettes qu'on a retrouvées sur les peuples voisins de la même époque, leur roi, c'était presque un dieu. Bah, d'ailleurs, les Égyptiens, c'est carrément des dieux. Ils n'avaient que des qualités. Ils étaient tout puissants, ils étaient merveilleux. Dans la Bible, on n'a pas ça. À part Dieu et Jésus, tous les autres, on montre leurs défauts et leurs qualités. Et pour moi, ça, c'est un signe d'authenticité. Hein? Ne pas avoir peur de critiquer sa propre façon de faire, même sa culture. C'était impressionnant. On en reparlera plus tard. Ça nous montre que ces gens-là, ils avaient beau être célèbres, ils étaient aussi en chemin comme nous, en apprentissage, si vous voulez. Et on peut facilement s'identifier à ces gens-là, parce qu'ils sont comme nous, même s'ils ont fait des choses extraordinaires. On peut s'identifier à eux dans leurs difficultés et dans leurs échecs, mais aussi dans leurs victoires quand même. Il n'y a pas que des échecs. Samuel signifie « exaucé de Dieu ». C'est pour ça que j'ai appelé mon fils Samuel, d'ailleurs. Entendu de Dieu, exaucé de Dieu. Je trouve ça un joli nom qui a un sens. Donc je dis, on est aux environs de 1100 avant Jésus-Christ. L'installation en Canaan depuis la prise de Jéricho, plus de 100 ans avant, n'est pas totalement accomplie. Et entre autres ennemis, les Philistins qui sont venus du nord, c'est eux qui ont donné le nom à la Palestine et au nom palestinien. Ça vient des Philistins. Les Philistins venus du nord cherchent à occuper toute la côte, évidemment. Pour le commerce, c'est plus pratique d'être sur la côte qu'au plein milieu des montagnes. Et donc, ils cherchent à repousser les Israélites vers les montagnes. Si longtemps que les Israélites sont obéissants à Dieu, ça va bien. Mais vous savez, on avait vu ça avec Déborah. Dès qu'ils commencent à faire n'importe quoi, à adorer les Baals, à sacrifier leurs enfants aux idoles, Ça, c'est un des points centraux de la Bible, où les prophètes disent, mais arrêtez, quelle idée vous avez de sacrifier vos enfants et les idoles? Dieu vous en veut pour ça. Le sacrifice humain était absolument interdit dans la Bible, alors qu'il était autorisé chez tous les peuples voisins. Il faut bien s'en rappeler. Le père de Samuel s'appelle Elkanah. Vous l'avez vu? Ça veut dire « Dieu se l'est acquis ». Alors, il était probablement lévite, vous savez, cette tribu de prêtres, qui habitaient, ils n'avaient pas de territoire à eux, ils habitaient dans les différents territoires d'Israël. Et lui habitait dans le pays d'Éphraïm, alors c'est un peu au nord de Jérusalem, dans la montagne, pour vous le situer. La Bible nous dit qu'il avait deux femmes, Anne, qui veut dire grâce, et Pénina, corail ou perle. Alors évidemment, il y a des commentateurs bibliques, c'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est dommage, j'aurais aimé, mais bon, qui disent ce proverbe, la grâce vaut mieux que les perles. Ah, voilà. Mais Anne était stérile, Pénina, elle avait plein d'enfants. Alors, la polygamie était tolérée, mais elle était contraire à l'ordre établi par Dieu dans la Genèse. Hein, si vous relisez Genèse 2, 18, 23, voyez que la polygamie n'était pas du tout dans le plan de Dieu. Mais voilà, l'influence des peuples voisins, en plus c'est un signe extérieur de richesse. Parce que si on pouvait entretenir deux femmes et deux tribus d'enfants, ça montrait qu'on avait de l'argent. Mais je pense dans le cas précis ici, on ne sait pas, hein, mais c'est pas impossible que ce soit à cause de la stérilité de Pénina. Parce qu'on voit bien que Pénina n'était pas un choix sentimental. Il dit clairement qu'il aimait mieux Anne. Aujourd'hui, l'importance d'avoir des enfants, une descendance, des fils qui conservent le nom et le patrimoine, la réputation de la famille, je pense que ça joue plus le rôle que ça jouait autrefois. Beaucoup de gens préfèrent avoir une carrière et ne pas avoir d'enfants. On n'est plus dans cette dynamique qui a tenu les gens pendant 40 siècles, de vraiment transmettre. Transmettre une culture, transmettre un patrimoine, transmettre des valeurs. C'est plus... Beaucoup de gens pour qui ce n'est plus du tout important, mais à l'époque c'était primordial. Donc le fait de ne pas avoir d'enfants, ça veut dire que mon nom va s'éteindre, ma famille va s'éteindre. Et bon, c'est vrai que moi franchement, c'est pas une valeur qui me tient forcément à cœur, mais à l'époque c'était très très important. L'espérance de vie était très courte, et c'est le psychologue Jacques Poujol qui dit que c'est aussi à cause de ça. Les gens vivaient très peu de temps, donc il fallait transmettre très vite. Tout, la culture, le patrimoine, etc. On désirait fortement transmettre ses valeurs et sa culture à ceux qui allaient perpétuer le nom et la famille. Donc la stérilité était un malheur. C'est toujours un malheur pour ceux qui veulent des enfants. Mais à l'époque, c'était un malheur, un déshonneur, et c'était vécu comme une malédiction et un rejet de la part de Dieu. Les gens s'imaginaient, Dieu ne m'aime pas, Dieu me punit. Oh, on n'est pas si loin que ça parfois, hein, quand quelque chose va pas, de dire qu'est-ce que Dieu a après moi. Je connais quelqu'un dans mon village qui a dit, quand sa femme est morte, Monsieur Gouron, quand sa femme est morte, il a dit, oh, Dieu doit beaucoup m'aimer, parce que la Bible dit, qui aime bien châtie bien. Parce qu'il avait perdu sa femme et avait beaucoup, beaucoup de malheur. Vous voyez, on a vite fait d'accuser Dieu. Et là, on voit bien que c'était pas ce que Dieu voulait. Hein, la suite de l'histoire nous montre que Dieu n'avait aucune intention de punir Anne. Mais c'est ce que l'homme pense. Et c'est ce qui a été transcrit là. Hein. Elle pensait que Dieu l'avait abandonnée, que Dieu ne l'aimait pas, puisqu'elle pouvait pas avoir d'enfant. Et le pire de tout, c'est que chaque année, vu qu'il était prêtre, visiblement, un lévite, il devait aller régulièrement au temple. De toute façon, tous les hommes devaient y aller 3 fois par an, à Silo, c'est un peu au sud de Rama, là où ils habitaient. On dit il montait, parce qu'en fait, c'est pas géographique, c'est parce qu'ils allaient vers Dieu, donc on monte toujours quand on va vers Dieu. C'est une image. Et le pire, c'est que quand ils allaient au temple, quand ils allaient dans le tabernacle, là où il y avait l'arche de l'Alliance, pour prier, c'est là que c'était le pire. Et parfois on dit, ah mais quelquefois c'est pire dans l'église qu'à l'extérieur. Hein? Vous voyez, c'est pas nouveau ça non plus. Josué avait installé le tabernacle là, à Silo, et 3 fois par an, donc il montait. Et on va lire versets 4 à 8. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, alors ça il faut peut-être préciser, il y avait plusieurs sortes de sacrifices. Très rapidement, C'est très compliqué, les sacrifices dans l'Ancien Testament. Mais en gros, les holocaustes, tout était brûlé. Les Anglais appellent holocauste leur toast quand ils les brûlent le matin. Quand il reste plus rien. C'est comme ça, je le retiens bien. Holocauste, tout était brûlé. Le sacrifice d'action de grâce et le sacrifice de paix, on répandait le sang, on brûlait la graisse, mais la viande, on donnait une épaule et la poitrine au sacrificateur, parce que lui faisait que ça, il fallait qu'il vive. Et le reste, on le distribuait à la famille et aux amis. Et on mangeait ensemble, si possible, près du temple. Voilà, donc voilà, en gros, il y a d'autres sacrifices, mais gardez ça en tête. Donc, en fait, il y avait cette notion de rester et manger avec la famille et les amis. Notion de fête, de table de communion, de relation horizontale. Hein. On a fait la relation verticale avec Dieu, et après, on mangeait ensemble, et on favorisait la communion fraternelle avec la famille et les amis. Et depuis plusieurs années, Anne endurait la méchanceté et les humiliations de Pénina, justement quand ils allaient là-bas. Alors, la Bible dit, il donnait des parts à sa femme, ainsi qu'à tous les fils et filles de celle-ci, mais il donnait à Anne une part d'honneur, car il aimait Anne, bien que le Seigneur l'eût rendu stérile. Tout au moins, c'est ce qu'il croyait. Sa rivale ne cessait de la contrarier, parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. D'année en année, il faisait ainsi, et chaque fois, donc vous voyez, c'est pas une fois, chaque fois. Donc si Pénina avait beaucoup d'enfants, vous imaginez le nombre d'années que ça a dû durer. Chaque fois Anne montait à la maison du Seigneur, Pénina la contrariait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Donc chaque fois, peut-être trois fois par an, elle endurait la méchanceté et les humiliations de Pénina. Chez eux, elle trouvait sans doute moyen de s'en protéger, parce que bon, peut-être la maison était grande. Visiblement, ils devaient être riches. Donc la maison était grande, elle pouvait peut-être vivre dans ses quartiers, elle, puis pas trop voir l'autre. Mais là, ils étaient tous ensemble, ils étaient obligés de manger ensemble, ils voyageaient ensemble, et l'autre, elle en profitait. Pendant tous les voyages à Silo, elle n'y échappait pas. Alors c'était déjà une situation pénible, vous imaginez, en elle-même, mais complètement aggravée par l'entourage. Alors on repense à Sarah, vous vous souvenez, avec Agar, la femme d'Abraham, le chagrin de la mère de Samson, Rachel méprisée par Léa, sa sœur, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Toutes ces femmes qui ont souffert de stérilité, mais l'histoire s'est bien terminée pour elles. Et on ne peut pas s'empêcher de dire, Dieu connaît ces situations. Et si vous êtes dans une situation difficile, Dieu connaît votre situation. Et parfois, c'est dans ces situations épouvantables qu'il va se glorifier. C'est ça que j'aime bien avec Dieu. C'est qu'il n'y a pas de situation désespérée. On peut être dans une situation épouvantable, avec l'entourage en plus qui en rajoute une couche. Mais il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et on dirait que Dieu prend plaisir, on ne dirait pas, c'est écrit dans la Bible, prend plaisir à relever les gens les plus malheureux. Qu'il a une attention particulière pour les gens qui souffrent. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux dans la Bible. Combien de fois on voit ces versets qui disent « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. » On trouve plein de versets comme ça. On dirait que Dieu, non, on dirait pas, Dieu a une attention particulière pour les gens qui souffrent beaucoup, que les gens méprisent, que les gens montrent du doigt. Dieu est celui qui est capable de changer le deuil en allégresse. Et ça, on l'a vu souvent, hein. Des situations folles, difficiles que Dieu a changées. Il change le deuil en allégresse. Et puis, il y a un autre verset qui dit, il donne une couronne au lieu de la cendre. Vous savez que les gens à cette époque, quand ils étaient malheureux, ben, ils en rajoutaient, ils l'exprimaient. Ils avaient raison d'ailleurs, je crois que c'est thérapeutique. Je ne vous conseille pas forcément de le faire, mais je sais que moi, j'aime pas avoir de la cendre quand je descends dans ma cheminée. Mais ils se mettaient de la cendre sur eux. Ils se revêtaient de sacs et ils allaient pleurer dans un coin, ils s'asseyaient dans la cendre. Remarquez, c'est assez doux, il n'y a pas trop de cochonnerie dedans. Et ils pleuraient, ils manifestaient leur chagrin. Et Dieu dit, au lieu de la cendre, je vous donnerai une couronne, quand même plus agréable, non, une couronne sur la tête que de la cendre partout. C'était des images qui parlaient beaucoup aux gens de ce temps-là. Maintenant, bon, on se chauffe au fioul, à l'électricité. Dieu est celui qui change le deuil en allégresse. Et il y a un autre verset qui dit, là où le péché a abondé, là où vraiment c'est sale, la grâce surabonde, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et il y a un petit enfant à qui on demandait qu'est-ce que signifie la grâce. Il dit, c'est quelque chose que j'ai pas mérité. Et c'est un peu ça, voilà. Donc stérilité plus rivalité. Donc stérilité, c'est déjà assez triste, hein. On le voit avec Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, elle est souffert, hein. Sarah aussi, etc. Mais en plus, quand il y a la rivalité, c'est horrible. Le tableau était plutôt sombre pour Anne. Et je fais un petit aparté sur la rivalité. C'est un peu la cousine de la jalousie. Et elle apparaît pas par hasard dans une famille. Bon, là, on savait pourquoi. Mais elle trouve sa source dans un gros problème familial. C'est la comparaison. Et là, oh, qu'on peut être maladroit en tant que parent. Ah. Faites attention, les jeunes, quand vous aurez des enfants. Mais on n'y coupe pas, malheureusement. Un jour ou l'autre, on fait une comparaison malheureuse. Oh, t'as vu, il a mieux fait ses devoirs. Ah, t'as vu, il est plus habile, il casse pas tous les verres de la maison. On va comparer. Et c'est là que peuvent naître des rivalités. Et puis, ce que mes parents m'ont donné, je vais le comparer à ce que ses parents lui ont donné. Ce que Dieu m'a donné, je vais le comparer aussi à ce que Dieu lui a donné. Seigneur, pourquoi t'as exaucé celui-là et moi j'ai pas? Pourquoi est-ce que celui-là il a la prospérité et puis moi? Pourquoi est-ce qu'il a pu se racheter une nouvelle voiture et moi je traîne toujours ma vieille carriole, etc. Et ça, c'est dangereux. La comparaison, c'est mortel. C'est mortel. Ça rend très malheureux. Parce qu'on trouvera toujours quelqu'un qui a plus que nous. La reine d'Angleterre, je suis sûre qu'elle peut encore regarder plus haut. Alors j'ai entendu à la radio qu'il y avait 86 familles qui détenaient près de la moitié des richesses du monde. C'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc vous voyez, je pense que la reine d'Angleterre, elle ne fait pas nécessairement partie de cela. Et elle peut regarder plus haut et ainsi de suite. Donc si on se compare, on sera toujours malheureux. La Bible parle, elle, de l'esprit de contentement. Paul disait « Je suis content de l'état dans lequel je me trouve ». Il dit, j'ai pu être dans la prospérité, j'ai pu être dans la difficulté, voilà, je suis content de l'état où je me trouve. Parce qu'en fait, c'est pas lié à l'argent ou aux circonstances. On le sait bien. Même les non-chrétiens le savent très bien. Le bonheur intérieur, le contentement, ne dépend pas de ce qu'on possède. Tout le monde le sait. C'est un état d'esprit. Il y a des millionnaires insatisfaits. Alors nous, on se dit, oh ben, ils sont vraiment bêtes, hein. Mais c'est la réalité. Il y a des millionnaires insatisfaits. Et il y a des pauvres tout à fait satisfaits. Je me souviens quand Charles était allé Pérou, tu nous avais dit comme tu étais frappé par la joie et la générosité des gens les plus pauvres. Moi, c'est resté dans ma tête. Ceci étant, Dieu n'est pas contre le désir de progresser. Hein. Trop longtemps, la religion a fait croire que pauvre égale un bon chrétien. Non, je pense que Dieu veut qu'on progresse et qu'on fasse tout pour progresser, socialement, intellectuellement, financièrement, il n'y a pas de raison. Hein, Dieu ne nous appelle pas à grenouiller dans notre mare là et pas bouger, non, non, il veut qu'on progresse à tous égards, mais pas seulement financièrement, dans tous les domaines. Je crois qu'une des grandes qualités de l'être humain, c'est de pouvoir continuer à apprendre, jusqu'à sa mort de pouvoir progresser. Moi j'admire beaucoup les vieux, je suis pas vieille, les gens plus vieux que moi, qui progressent encore. Ça, je trouve que ça vous tire en avant. Waouh, il a 87 ans, il est encore en train d'apprendre des choses. Il est en train de s'émerveiller sur quelque chose. Ah, ça c'est génial. Donc Dieu n'est pas contre le fait qu'on progresse, mais il veut qu'on soit dans le contentement et que le fait de progresser soit pas une idole qui efface tout le reste dans notre vie. Alors, que ce soit pour un exaucement de prière, une guérison, la prospérité matérielle, même les succès dans le ministère, ou les responsabilités dans la société, attention aux comparaisons. Les comparaisons nous bouffent la vie. Donc, on ne compare pas. Alors, on n'a pas toutes les réponses. Pourquoi celui-ci n'est pas exaucé, alors que moi j'ai été guérie? Ou pourquoi moi je suis pas exaucée, et l'autre il a réussi à avoir un poste intéressant. Alors, il y a un pasteur qui disait quelque chose de très bien. Chaque fois, il disait que chaque fois que je vois quelqu'un qui a un exaucement que moi j'ai demandé, je me réjouis en me disant « Ouais, il l'a eu, alors moi aussi je l'aurai. » Ça, c'est la bonne attitude. Dieu a béni un tel. Ouais, moi, je me réjouis quand vous venez me raconter comment Dieu vous a béni dans différents domaines. C'est comme si c'était moi. C'est chouette. C'est chouette parce que je sais que ce que Dieu fait pour l'un, il le fera aussi pour l'autre à un moment ou l'autre. C'est un bon père. Même si on traverse parfois des moments très difficiles par rapport au travail ou autre. Mais c'est qu'un jour ou l'autre, la porte va s'ouvrir. Et si elle s'ouvre pour l'autre, ouais, alors, moi je prends le tour suivant, hein, Seigneur, je me positionne, moi aussi. Voilà, c'est ce bon état d'esprit qui nous rend heureux. Mais on n'a pas toutes les réponses. Parfois, on voit des exaucements de prières qui ne viennent pas, et on ne sait pas pourquoi. Et Anne devait se demander, chaque fois que l'autre, elle avait encore un nourrisson, se dire, mais pourquoi moi j'en ai pas? Pourquoi elle en a plein comme ça, puis elle est mauvaise? Alors, je me dis aussi attention aux maladresses volontaires, comme celle de Pénina. Ça, c'est pas permis quand même quand on est chrétien. Ou involontaire. Attention aux allusions blessantes. Hein, et il faut faire attention en tant que chrétien de pas dire n'importe quoi. On peut dire vrai, mais on peut aussi se tromper. Hein. Tu n'es peut-être pas dans la volonté de Dieu. Moi, je sais. Attention aux accusations voilées ou liées à une punition éventuelle de Dieu. Si Dieu punit quelqu'un, ça peut arriver. Mais c'est à la personne de le savoir et pas à nous. Ça, c'est, ne nous mêlons jamais de ce genre de choses. Qui sommes-nous pour dire Dieu t'a puni? C'est un truc, surtout dites jamais ça à vos enfants, vos petits-enfants quand ils se cognent. Un truc que je supporte pas. Bon Dieu t'a puni. Comment ça? Il marchait trop vite, il a glissé, et puis voilà. Pas exagéré quand même. Soyons un peu scientifiques. Là, c'est une horreur de dire ça à un enfant. Parce que ça lui donne une image de Dieu qui est complètement fausse. Comme si Dieu était au coin là, pour l'attendre derrière le poteau. Tu vas tomber parce que ta maman t'a dit de pas courir. Boum. Non. Attention aussi aux explications qu'on cherche pour se rassurer. Elle cherchait des explications, Anne. Peut-être que Dieu m'a puni, peut-être que... Vous savez, vous avez tous fait ça, j'imagine, moi aussi. Quand il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce que j'ai fait de travers? Qu'est-ce que j'ai fait pour contrarier le Seigneur? Attention à toutes ces explications. Alors, bien sûr, il y a des explications qui peuvent paraître évidentes. Vous savez, c'est mon image du parapluie. Si, sous la pluie battante, je sors sans parapluie, je serais mouillée. Ça, mais c'est pas toujours bon de dire aux gens, je t'avais prévenu, hein, tu l'as cherché, c'est bien fait ce qui t'arrive, t'es mouillée, t'as qu'à prendre ton parapluie. C'est pas toujours très habile de dire ça aux gens quand ils sont dans le malheur. C'est peut-être vrai, mais là, c'est la miséricorde et la bienveillance de Dieu, qui sont les vertus qui permettent à la personne qui est mouillée, c'est-à-dire qui est tombée, qui a fait une bêtise, de se relever et de se sécher. C'est la miséricorde, et la grâce, et la bienveillance. C'est pas, je te l'avais bien dit, le Seigneur t'a puni. Non. Hein? Attention à nos paroles. Attention. Bon, on le dit pas toujours aussi ouvertement, mais voilà, il y a des façons de le dire. Notre vie à tous est un apprentissage. On peut être plus ou moins têtu, ou plus ou moins conscient. Mais on peut apprendre d'autant plus facilement que les gens de notre entourage sont dans la bienveillance. On le voit avec les enfants. Un enfant qui est un peu difficile, s'il a de la bienveillance autour de lui, la fermeté mais de la bienveillance, il risque de bien s'arranger en grandissant. Mais un enfant qui est tout le temps disputé, condamné pour les bêtises qu'il fait authentiquement, il va avoir du mal. Il va avoir du mal à grandir correctement. Hein? Donc, la miséricorde et la bienveillance, ça aide les gens à grandir. Ça ne veut pas dire qu'on leur donne raison. Mais, t'es mouillé. Oui, bien sûr. Prochaine fois, n'oublie pas ton parapluie. Mais, c'est pas grave, on va te sécher. Vous voyez ce que je veux dire? Le secret pour apprendre reste toujours le même. Si on veut être dans l'apprentissage, c'est l'humilité. Je suis le disciple, Jésus est le maître. Je suis l'argile, il est le potier. On n'aime pas trop ça. L'idée d'être de l'argile et que Dieu soit le potier, ça nous dresse un petit peu, ouais, bon, c'est pas évident, hein. Mais ce sont ni nos comparaisons, ni nos rivalités qui nous feront progresser, elles feront progresser personne. Les rivalités et les comparaisons détruisent aussi les familles, on le voit ici. Vous imaginez l'ambiance dans la famille d'Elkana? Surtout quand ils allaient à l'église, là, à Silo. Ça devait être chaud, hein. Ça devait être chaud. La tête de Dan et tout ça, etc. Le pauvre Elkana qui savait pas quoi faire avec ces deux bonnes femmes, ça devait pas être évident. Mais on a le même problème avec les frères et sœurs. On a le même problème avec nos amis, nos collègues. À partir du moment où il y a rivalité, comparaison, ça crée une ambiance tendue, que ce soit au travail, avec les voisins, et même éventuellement à l'église, parce qu'on est des humains qui se réunissent ensemble. Ne faites rien par esprit de parti, disait l'apôtre Paul. Donc faisons attention, c'est un destructeur de relations. Hein, la rivalité, la comparaison, sont destructeurs de relations. Et même dans un couple, parfois l'homme et la femme peuvent se mettre en rivalité. Ah, ça arrive. Je pense que c'est jamais arrivé chez vous, bien sûr. Mais ça peut arriver. Ok, on peut être meilleur dans certains domaines, et le conjoint est meilleur dans d'autres. C'est rare qu'il y en ait un qui est tout bon, puis l'autre tout mauvais, quand même. Bien que les femmes sont quand même nettement mieux. C'est un abus de micro, oui. Oui, on a le droit de plaisanter. Plutôt que la rivalité, il faut choisir la complémentarité. Complémentarité. Et entre frères et sœurs aussi. Moi, je me souviens quand Florence était petite, si elle cassait un jouet, elle se disputait souvent avec ses frères. Mais si elle cassait un jouet, elle jouait la complémentarité. Elle allait voir Olivier. Tu me répares ça? Ça marchait en général, était quand même... Quand il s'agissait de réparer, ça allait bien. Hein? Donc, jouer la complémentarité. C'est important. Entre frères et sœurs, avec les collègues aussi, ben écoute, je te confie ce travail, c'est pas la peine que j'essaie de le faire. Par contre, moi, je vais te faire ça, parce que je vois que toi, t'as du mal. C'est pas toujours faisable, mais parfois, c'est faisable. Il faut en profiter. Alors, on va revenir à nos deux rivales. On a fait notre petit couplet sur la rivalité, parce que dans les familles, c'est important. Hein. Nos deux rivales, chez elles, c'était le fruit d'un dysfonctionnement. Alors là, c'est pire. Dieu n'a pas créé le couple pour être polygame. Et que la polygamie soit reconnue dans un pays, qu'elle soit légale, tolérée ou cachée, c'est toujours une source de souffrance humaine. On a beau me raconter. Moi, j'aime bien poser des questions à des gens qui viennent de pays où la polygamie est acceptée. Ça se passe bien. Justement, on avait une dame africaine récemment à la réunion de dames qui nous a expliqué la tragédie que ça représente. C'est pas si simple qu'on le croit. On va vous donner une image géniale, mais ce que les femmes souffrent derrière, c'est autre chose. Elles le disent pas toujours, mais elle nous a expliqué hein, comment cette une des deux femmes hein, lui téléphone en pleurant, etc. Même la nuit, enfin bon, c'est horrible. Donc c'est forcément une source de souffrance humaine. Tout comme les préférences à la maison. Quand les parents préfèrent un enfant plutôt que l'autre. J'ai beaucoup de ça dans ma classe. Quand je parle de l'histoire de Joseph, j'ai beaucoup d'enfants qui me disent « Ah, moi mes parents ils préfèrent mon frère, ma sœur. » Je leur dis, faites attention, parfois c'est une impression. Mais une impression, ça a quand même sa valeur, hein, même si c'est pas la réalité. Le chouchoutage à l'école, le favoritisme au travail, c'est pas évident. On souffre, c'est une cause de souffrance. Pénina va souffrir d'être moins aimée. Évidemment, on l'aime pas trop, Pénina. Hein. C'est pas évident. Hein. Mais elle souffre d'être moins aimée. Et elle se venge en humiliant Anne, en la méprisant, en se moquant d'elle. Alors, on va lire quelle est la réaction de Anne. Elle pleurait et ne mangeait pas. Elle cada son mari et lui dit « Anne, pleures-tu ? » Pourquoi ? Oui, là, je peux pas forcer ma voix aujourd'hui. D'habitude, je peux parler sans micro, mais pas là. Et elle pleure. Elle ne mange pas. Elle se sentait pas capable de lutter avec Pénina. Elle ne voulait pas se retourner contre son mari, qui l'aimait. Elle n'osait pas se retourner contre Dieu. Et qu'est-ce qu'elle va faire dans ce cas-là? Elle retourne sa colère contre elle-même. Et combien de fois on fait ça? C'est le problème des anorexiques. On n'ose pas retourner sa colère contre papa, maman, ou autre figure d'autorité qui a blessé, et alors on la retourne contre soi, on mange pas. Elle tombe dans la pitié de soi, pleure. Oh, il y a de quoi, hein. Je la critique pas, il y a de quoi. C'est terrible, quelle est mauvaise celle-ci avec ses gamins. Pourquoi Dieu me répond pas? Elle pleure, et elle va jusqu'à se couper du repas. Vous savez, à cette époque, hein, les repas c'était quelque chose de très important. C'était un lieu de communion. C'était un symbole, à tel point que quelqu'un qui partageait avec vous le pain et le sel, on ne pouvait plus le trahir. Donc on faisait attention à qui on recevait. Après, il s'agissait plus de se retourner contre eux. C'était une loi d'hospitalité. Donc elle se coupait de ce lieu privilégié. Elle ne mangeait pas avec les autres. Symbole de communion familiale devant Dieu. Et en plus là, à Silo, il mangeait. Alors on ne sait pas exactement si c'était dans l'enceinte du temple ou dans la cour du temple, mais il mangeait tout près du lieu de sacrifice. Donc ça avait aussi un côté religieux. Elle déprime complètement. Alors on ne va pas la critiquer, je crois que c'est la réaction humaine, instinctive, normale, quand on est gravement contrarié. On ne sait pas contre qui retourner sa colère, on la retourne contre soi. Et combien de gens parfois se coupent de la communion familiale ou la communion de l'Église parce qu'ils ont été contrariés, sans parfois avoir vérifié d'ailleurs si l'offense était voulue ou pas. Ça ne règle rien. Ça empêche une reconstruction et une réparation. Anne a le cœur brisé, l'âme en ruine, pas de joie, pas de tonus. On se met à sa place. Alors Elkana, quant à lui, vous avez vu, c'est bien un homme, hein, mesdames. Il fait ce qu'il peut. Il essaye de comprendre. Il pose des questions. Il lui fait pas de reproches. Il est tout gentil. Il l'aime. Il cherche à la consoler. Mais il est assez maladroit quand même. Il cherche le côté positif. Mais t'as un mari qui t'aime. Est-ce que je vaux pas pour toi plus que des fils? Bon, je ne vous fais pas un dessin, mesdames. Ça n'aide pas des masses. Face aux méchancetés qu'elle endure, tout le temps, à chaque visite au temple. Bon, il est bien brave, hein. Mais bon, il ne règle pas grand-chose, hein. Je sais pas, moi j'aurais préféré qu'il dise « Oh là là, je vais la réaligner, celle-là » ou je sais pas quoi. On est vilaine. Hein. Nous, les consolateurs humains, on est un peu comme Elkana. On est souvent maladroit. Moi, je le sens face à des grandes détresses. Comment on peut être maladroit? C'est pas évident, hein. Face à la détresse de quelqu'un, on essaie de lui dire, mais regarde ce que tu as. Le verre est à moitié plein. Toi, tu le vois à moitié vide. Change de regard. C'est quand même un petit peu, hein. Quand on souffre, ça vous console pas des masses, tout ça, hein. Et on sait pas trop quoi dire. Soyons honnêtes, c'est pas évident de réconforter quelqu'un qui est dans une grande douleur. Hein, c'est pas évident, je trouve. Quand notre douleur est très profonde, quand on comprend pas pourquoi ça nous arrive, quand en plus on se compare à ceux qui sont exaucés, qui n'ont pas le même problème, les consolations humaines sont très légères. Je me souviens quand mes deux garçons étaient malades et qui pouvait me consoler? Les consolations humaines, c'est pas terrible, ça n'aide pas beaucoup, c'est gentil, on est content, mais quelquefois je me dis, pleurer avec ceux qui pleurent, c'est peut-être encore le plus efficace. Anne est terriblement amère, elle est négative, elle est triste, puis son pauvre mari ne sait pas quoi faire. Alors, la meilleure partie, après qu'ils eurent mangé et bu à Silo, Anne se leva. Et dans la Bible, quand on dit on se lève, c'est qu'on se lève. C'est pas simplement on quitte son siège. On se lève, on arrête d'être prostré, on arrête d'être... Élie, le prêtre, était assis sur son siège, près du montant de la porte, vous l'avez vu, hein, du temple du Seigneur. Elle, la mère, se mit à prier le Seigneur et à pleurer abondamment. Et elle fit un vœu. Près des années, elle va enfin prendre une bonne décision. On la critique pas, hein, parce que je sais pas ce qu'on aurait fait à sa place. Depuis des années, elle accomplissait son devoir religieux. Attention, ça c'est important. Depuis des années, elle accompagnait, elle faisait son devoir religieux. Elle montait à la maison de Dieu. Puis c'était pire qu'à la maison. Cette fois-ci, elle va rencontrer celui qui habite la maison de Dieu. Pas Élie, mais Dieu lui-même. D'habitude, c'était un devoir religieux. Là, elle se met face à Dieu. Et moi, j'admire, elle récrimine pas. Moi, je crois que j'aurais râlé quand même. Mais j'admire sa prière. Seigneur des armées, si tu daignes regarder mon affliction, si tu te souviens de moi et ne m'oublie pas, si tu me donnes une descendance à moi qui suis ta servante, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Alors, si on ne sait pas, c'était un vœu de Naziréa, c'est-à-dire que la personne était consacrée à l'Éternel, Et le signe extérieur, non pas de richesse, mais de consécration, c'était de ne pas se couper les cheveux. Donc les gens savaient, ah, il a fait un vœu à Dieu. Voilà. Je ne sais pas si les hippies de notre époque avaient compris ça, mais... Notre devoir religieux, aller à l'église, faire des tas de choses pour Dieu, faire des sacrifices, des fêtes. Ça n'avait rien changé pour elle. Ça fait des années qu'elle y allait. Mais là, elle s'adresse au maître de la maison, à Dieu. Elle pleure devant Dieu. Et, petit aparté, quand on va à l'église, n'oublions pas pour qui on vient. Bien sûr, il y a la musique, le chant, les gens qui sont sympas, les contacts, les encouragements, c'est bien. Mais dans mon église à Rouen, quand j'étais jeune, on était une très grosse église, on était 600, et j'entendais des petites grand-mères qui étaient un petit peu difficiles, un petit peu au jus de citron. Et s'il s'était passé quelque chose qui les avait contrariées, oh, c'est des femmes qui avaient vécu les deux guerres, hein, quand j'étais petite, donc on comprend qu'elles pouvaient être un petit peu... Hein. Et si quelqu'un les avait contrariées, elles disaient, donc je les entendais dire quelquefois, oh, ça m'a gâché mon culte. Ça m'a gâché mon culte. Comme si, voilà, comme si c'était, c'est ça qui peut gâcher le culte. Parfois on se dit, mais pourquoi elle venait en fait? Mais bon, on est tous un peu comme ça quand même. Et si c'est le cas, il faut revenir au point de départ. Pourquoi et pour qui je viens à l'église? Adorer, prier, écouter la parole de Dieu, prendre la scène, profiter de la communion fraternelle, bien sûr, aussi, mais voyez, on vient quand même pour Dieu. Et peut-être elle avait oublié ça, Anne. Elle était tellement dans sa souffrance, dans son malheur, qu'elle venait au temple sans réaliser qu'elle avait là en face d'elle le Dieu qui, selon elle, l'empêchait d'avoir des enfants. C'est notre relation avec Dieu qui va tout changer. Anne va ouvrir son cœur pour la première fois devant Dieu. Jusqu'à présent, elle avait tout gardé pour elle. Tout retourné contre elle. Et elle fait un vœu, une promesse qui est lourde de sens. Parce que si tout avait bien marché pour elle, si elle avait eu 15 enfants, elle n'aurait jamais fait cette promesse à Dieu. Et sans le savoir, elle allait offrir à tout le peuple d'Israël, et à Dieu bien sûr, le juge, le prêtre et le prophète qui allait ramener tout Israël vers Dieu, qui allait amener une unité dans les 12 tribus, qui allait amener une unité politique et religieuse, qui oindrait le roi David, dont le règne reste très symbolique du règne de Jésus, et qui allait aussi nommer, bien sûr, Saül, etc., le roi David, qui Jésus est appelé fils de David, hein, au niveau symbolique. Donc vous vous rendez compte, tout ce malheur a été effacé avec cette prière. C'est incroyable. Est-ce qu'il y en a qui disent que c'est du chantage? Si tu fais ça, je ferai ça. Elle n'était pas dans cet esprit-là, si vous lisez attentivement le texte. Elle n'était pas du tout dans un esprit de chantage. Elle était plutôt dans les... Elle avait beaucoup de respect pour Dieu. Elle considérait pas Dieu comme son copain, comme ça, bon, fait un chantage. Elle avait énormément de respect. C'est une forme de reconnaissance. C'était vraiment... C'était pas par égoïsme qu'elle voulait cet enfant. C'est ça qu'elle voulait montrer à Dieu. C'est pas par égoïsme. Et parfois, dans notre société, on tombe là-dedans. On veut des enfants par égoïsme. Et c'est des... C'est des petites poupées, c'est, voilà, ils grandissent, on veut que ce soit, etc. Les meilleurs, c'est bien, mais finalement, c'est pour soi. Et ça crée toutes sortes de problèmes. Elle n'était pas dans cette optique. Elle le donne au Seigneur en remerciement d'avoir ôté sa honte. Et si on comprend la honte qu'elle a vécue pendant des années, on comprend à quel point elle était reconnaissante. Si tu me donnes cet enfant, je te le confie, parce que ma honte sera ôtée. J'aurai eu un enfant. Donc je n'aurai plus cette honte. Et je pense à ce verset qui dit « Quand vous demandez mal, pour satisfaire vos convoitises. » Ah ! Et elle n'était pas dans cette optique. Elle n'était pas « Je veux des enfants pour embêter Pénina, je veux des enfants pour montrer à Pénina que je ne suis pas plus bête qu'une autre, etc. » Non, je te l'offrirai, parce que ma honte sera ôtée, c'est l'essentiel. Donc le naziréa, le fait de pas couper les cheveux, c'était lié aussi au fait de pas boire d'alcool, ce qui dans un pays comme ça, c'est assez rare. Hein. Ils en avaient pas mal de vignes, etc. Et il sera consacré à Dieu pendant toute sa vie. Parfois les gens étaient naziréens pour un temps, un mois, une année. Là, elle le consacre pour toute sa vie. La prière d'Anne se prolonge. Là, c'est un résumé. Elle avait beaucoup à dire au Seigneur. Elle n'a pas peur de l'embêter. Ça, j'aime. Parce que vous savez, ils avaient peur de Dieu dans ce temps-là. Elle n'avait pas peur de l'embêter. Elle ose déverser toute sa peine. Et elle est là. Dieu est là, près de nous. Quand t'as pas le cri, l'Éternel entend. Il écoute et il agit. Parfois, on est si déçu, si malheureux, qu'on refuse la bouée qui nous tend. Moi, j'ai vu des gens tellement malheureux que quand on leur dit, mais Dieu est à côté de toi, Jésus est à côté de toi, saisis, saisis, comme disait André ce matin, saisis. Mais elle n'est pas dans cette optique. Elle refuse pas. Et ça, j'admire chez elle. Après tant d'années, elle a encore suffisamment de courage pour répandre son cœur devant Dieu et ne pas tomber dans l'amertume. Elle se lève, elle va vers le Seigneur, elle déverse son cœur. Et elle se laisse guider dans sa prière. Je crois qu'elle était inspirée dans sa prière. Et la suite l'a prouvé. Et peut-être elle a prié un peu différemment de ce qu'elle pensait au début. Elle était vraiment guidée par le Seigneur. Et puis Élie, ce bon vieux bonhomme, vous avez vu comment il est. Il regarde l'extérieur. Ah ! Je sais que c'est un de mes hobbies, ça. Attention, pas regarder l'extérieur. Il observe sa bouche, la Bible dit. Puis elle est là. Vous savez, les femmes du midi, hein, s'expriment. Il était là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Elle est bizarre. Peut-être elle faisait des gestes aussi. On priait debout, hein, à cette époque. Il est assis contre un pilier du tabernacle. Il est un peu comme un meuble, figé comme une statue. Il observe l'extérieur. Il peut pas entendre sa voix. Pas parce qu'il est sourd, mais parce qu'elle parle pas. Elle parle juste dans son cœur. La Bible dit qu'elle parlait dans son cœur. Mon verset favori, vous y aurez droit encore aujourd'hui. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tous mes élèves le savent par cœur. Et les conclut. Ah bah oui, quand on regarde l'extérieur, on fait des conclusions fausses. Souvent. Il conclut. Elle est ivre. Et en plus, il agit bêtement. Il la gronde, il pose même pas une question. Alors que pour les Juifs, poser des questions, c'est une valeur. Vous savez, hein, on dit, c'est quoi la définition d'un enfant intelligent? Chez les Juifs, c'est un enfant qui pose des questions. Donc c'est une valeur, poser des questions. Eh ben, il en pose même pas. Elle est ivre, j'ai vu, elle est ivre. Quand on observe de l'extérieur, on risque de mal penser et de mal réagir. Et il tombe dans le panneau. Vous me direz, vous pouvez peut-être pas faire autrement. Si, il pouvait quand même prier, c'était un vieux prêtre. Il pouvait demander à Dieu, qu'est-ce qu'elle a cette femme? Il pouvait demander autour de lui, hein, il y avait du monde, hein, il n'était pas tout seul. Il pouvait se bouger aussi, sortir de son siège. Mais d'après ce que dit la Bible, il était assez sédentaire. La personne religieuse, je suis désolée, mais là, Élie, il était vraiment religieux. Il fait souvent du tort à l'évangile parce qu'il juge de l'extérieur. Et comme on le dit souvent, qu'est-ce qui fait le plus de tort à l'évangile? C'est les gens religieux. C'est pas les athées, c'est pas les... Non, les gens qui font le plus de tort à l'évangile, c'est les gens religieux. Parce que souvent, ils jugent sur l'extérieur. Et c'est un danger qui nous guette tous quand on est chrétien. Faut être attentif. On peut faire énormément de tort à l'évangile parce qu'on va trancher dans le vif. On va dire, oh, cette personne, elle va à l'église, elle prie à haute voix, elle distribue la Sainte-Cène, elle est habillée avec un tel et un tel. C'est quelqu'un de bien. Oh, c'est l'extérieur. Jésus juge l'arbre à ses fruits. Pour Jésus, celui qui bâtit sa maison sur le roc, c'est celui qui entend la parole et qui la met en pratique. C'est pas celui qui porte l'étiquette chrétien première classe. Élie passe tout de suite à la réprimande. Il est tellement sûr de lui. J'ai vu. Allez, hop! Va cuver ton vin ailleurs. C'est pas très gentil, hein. Ce qui me surprend quand même, c'est la réaction d'Anne. On voit qu'elle vient de passer du temps avec le Seigneur. C'est là qu'on le voit. Moi, je lui aurais sauté la figure quand même. Non mais oh, hein. Elle a du respect pour ce vieil homme, qui est injurieux. Elle réagit pas à son injure. Elle accepte de lui expliquer. Elle aurait pu se vexer, partir la tête haute, dire, c'est trop crétin pour que je lui explique. Elle serait peut-être passée à côté d'une réelle bénédiction. Moi, j'admire son cœur, avec toute la souffrance qu'elle avait. Mais elle venait de passer du temps avec le Seigneur. Alors, elle va pas se vexer. Elle va accepter de lui expliquer. Et vous avez vu, elle explique vachement gentiment. Hein. comme sa prière se prolongeait, etc. Oh, on est un petit peu plus loin. « Je ne suis pas une femme entêtée, je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée. Je me répandais devant le Seigneur. Ne me prends pas, moi, ta servante, pour une femme sans morale, car c'est l'excès de ma douleur et de ma contrariété qui m'a fait parler jusqu'ici. » Très poli, très clair. Elle n'est pas dans le déni. « Moi, j'ai rien fait. » Non, elle dit les choses comme elles sont. La vérité. Vérité qui libère. Belle réaction. Elle comprend aussi que cet homme, il a le droit à l'erreur. Et ça me fait réfléchir. Est-ce qu'on est tous capables de penser que l'autre, il a le droit à l'erreur? Moi, j'aime pas donner le droit à l'erreur à mon mari. On voudrait bien que les gens, ils soient parfaits, etc. Ça lui fait plaisir. Non, mais c'est vrai, c'est important d'accepter que l'autre puisse se tromper et de lui expliquer gentiment les choses. Bon. Il avait le droit à l'erreur, ce bon vieux prophète. Élie, de son côté, il est quand même chouette parce qu'il va reconnaître son erreur. Il veut pas passer pour celui qui, bon, j'ai raison, et voilà. Il accepte sa réponse sans se moquer. Il pensait que c'était une femme, et à l'époque, hein, il se moque pas. Il profite pas de sa position pour chasser cette femme un peu bizarre. Il lui transmet la bénédiction de Dieu. Il va jouer son rôle. Alors, il y en a qui disent peut-être que c'était un geste purement religieux. Il le faisait pas avec son cœur, ça on n'en sait rien. On va pas le juger. Mais il était franchement inspiré, même si c'était une formule de bénédiction. Ça fait longtemps qu'elle avait plus la paix. Et il va lui dire, va en paix. Alors c'est peut-être une formule, un shalom, mais je pense que c'était important pour elle, ce mot paix. Ça fait combien d'années qu'elle avait plus la paix? Vous savez, quand vous subissez les injures de quelqu'un, on n'a plus beaucoup la paix. C'est terrible, hein. Surtout qu'elle gardait tout à l'intérieur, de quoi se coller un ulcère à l'estomac. Et elle va prendre cette paix, elle va recevoir cette paix, enfin, pour la première fois. Avec la paix de Dieu, la Bible dit qu'il surpasse toute intelligence, qui ne dépend pas des circonstances. C'est une paix très particulière, la paix que Dieu donne. Parce qu'elle n'est pas liée aux circonstances, elle n'est pas liée à si les gens sont gentils ou pas. C'est quelque chose de profond. On l'a tous vécu, hein. Je pense aussi au moment où des deuils. Comment la consolation, la paix de Dieu, on peut la ressentir dans nos cœurs. Elle va partir dans le respect, elle part avec la paix, elle ne retourne plus sa colère contre elle, elle va partager le repas avec sa famille. L'anorexie, c'est fini, parce qu'elle a retrouvé la paix, parce qu'elle ne retourne plus la colère contre elle. Son visage, la Bible dit, n'est plus le même. Elle est sortie d'un très long tunnel, parce qu'elle a été consultée. Celui qu'elle venait voir depuis des années, mais à qui elle n'avait jamais parlé. Donc je vous conseille aussi, si vous êtes, on a tous des moments difficiles, des prières inexaucées, faisons comme Anne, répandons le cœur devant Dieu. Répandons notre cœur devant Dieu. Seigneur, cet exaucement, je l'attends depuis tellement longtemps, etc. Répandons notre cœur devant Dieu. Parce qu'il y a un verset qui dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est un verset qui est dans Ésaïe ou je sais pas quoi, donc c'est beaucoup plus tard. Psaume, donc c'est plus tard. Mais c'est exactement ce qu'elle a vécu. Elle s'est tournée enfin vers le Seigneur au lieu de vers un geste purement religieux. Et son visage n'était plus le même. Elle a même pu remanger avec les autres. Ça veut dire que son nœud là était parti. Elle avait trouvé la paix. Et c'est une nouvelle vie qu'allait commencer pour elle. La suite au prochain numéro.